Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre d'une femme qui prend soin de nos enfants. Elle est pédiatre et avec elle, on va se rendre compte que lorsqu'on arrive un petit peu angoissé dans ce genre de rendez-vous, eh bien derrière se cache aussi un être humain avec son histoire, avec ses propres angoisses, mais aussi avec ses propres réalisations personnelles. On y va pour les détails.
Média, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Houda El-Rmari, bonjour.
Bonjour Yasmine, comment allez-vous?
Bien, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Lalla Houda, comment ça va?
Allah yberk chik, merci beaucoup.
Alors, Houda El-Rmari, vous êtes spécialiste en médecine. Ça, c'est pour le côté professionnel. Pour le côté personnel, maintenant, en regardant en arrière, est-ce que vous êtes aujourd'hui la femme que vous avez toujours voulu être?
Alors, waouh, ça commence fort. Alors, pas du tout, j'imagine absolument pas du tout que je serai la femme d'aujourd'hui. C'est un long parcours, on va dire, de travail personnel et un parcours professionnel aussi. En fait, c'est une association des deux, finalement, qui fait que je suis la femme d'aujourd'hui.
Alors, justement, si on devait vous demander de vous définir comme femme d'aujourd'hui, ça serait quoi vos principales forces?
Mes principales forces, c'est spécialement la rigueur et la volonté. La volonté de réussir, la volonté d'être déjà bien avec soi-même, la volonté de se connaître soi-même, de connaître ses valeurs, et puis la rigueur, c'est-à-dire quand j'ai un objectif en tête, j'essaie de m'y tenir, et d'être régulière dans mon travail, dans ma réflexion, dans le cheminement de ce projet ou de cette idée que je pourrais avoir en tête, et d'y arriver, de faire de mon mieux pour y arriver.
Cette réflexion, vous la menez aussi dans votre vie privée? Est-ce qu'il y a une dichotomie entre le professionnel et le personnel?
Oui, il y a une certaine volonté, une certaine rigueur pour être tous les jours une meilleure personne que le jour d'avant. Je suis une personne, je veux dire un petit peu de... une personne qui a des blessures, des traumatismes, comme n'importe, j'imagine, quelle autre personne. Et cette volonté d'aller de l'avant, cette volonté d'être mieux tous les jours, oui, je l'applique aussi, et dans la rigueur, en faisant un travail personnel, régulier, permanent, pour justement atteindre l'objectif qui est d'être une femme accomplie, épanouie, équilibrée avec elle-même.
Alors ça, c'est par rapport à vos forces. Vous avez parlé de volonté et de rigueur. Maintenant, aujourd'hui, les spécialistes, les coachs recommandent de ne plus dire faiblesse, mais dire piste d'amélioration. justement, un autodiagnostic pour vous, ça serait quoi vos pistes d'amélioration?
Alors, ne plus prendre les choses contre moi. l'aboutissement aussi d'un long travail personnel. Finalement, j'ai fini par comprendre que certains comportements des autres, certaines réactions des autres, ce n'est pas forcément une attaque personnelle, parce que ça nous ronge. Il y a certains comportements, certaines réactions, certaines choses qui finissent par nous ronger, qu'on ne comprend pas. Mais au final, on se dit que c'est un petit peu peut-être l'histoire de l'autre qui fait que... cette personne-là essaie de reproduire son histoire un peu, et donc ça pourrait expliquer le comportement et que finalement il faudrait pas prendre la chose contre soi, mais plutôt être peut-être dans l'empathie et la compassion et essayer de comprendre. Donc ça c'est c'est aussi le gros travail que j'ai fait en parallèle.
C'est de vous détacher des réactions des autres, c'est ça ?
Tout à fait, de se détacher des réactions des autres. Quand on est dans l'erreur, bien sûr, on est dans l'erreur. Il faut savoir aussi avoir l'humilité de présenter des excuses et de voir cette erreur en face et de dire « je suis en tort ». Mais quand il s'agit d'un comportement qui n'est en rien...
pour lesquels on n'est pas responsable. Enfin, notre,
voilà, ouais. On n'est pas responsable. Voilà, c'est très bien d'assumer ses responsabilités. Il le faut, c'est très important. Ça fait partie du chemin de l'équilibre de soi. Mais dans la mesure où ce n'est pas notre responsabilité, au lieu de prendre les choses contre soi et de ruminer les mauvaises idées, c'est de s'arrêter, de savoir que ce n'est pas notre responsabilité, que c'est l'autre, et peut-être être dans la compassion et dans la compréhension, ce qui pourrait améliorer, je pense, plein de relations autour de nous.
C'est libérateur comme prise de conscience, en fait, quand on réalise que les réactions des autres, les ressentis des autres, comme vous l'avez dit, bien sûr, lorsqu'on sait qu'on n'est pas responsable, qu'on n'est en effet pas responsable des humeurs des autres. C'est libérateur, en fait.
Mais d'une façon incroyable. Tu peux pas imaginer. Ouais. Enfin, peut-être que tu imagines, mais...
J'imagine, c'est pour ça. Oui. J'ai eu un peu la même... j'ai eu le même vécu, en fait. Pendant très longtemps, je me suis sentie responsable des moindres changements d'humeur de mon entourage. Et jusqu'au jour où j'ai réalisé, ça a été... Ça a été une libération totale que ben non, en fait, non, c'est pas de ma faute. Je peux pas être responsable de tout et surtout des malheurs des autres, c'est pas possible.
Tout à fait.
Ça vient un peu de l'enfance, je pense.
Je pense que oui, parce que c'est un long chemin quand même de raisonnement, de réflexion, d'essayer de comprendre.
La raison,
Et en fait, ce sont des traumatismes qu'on accumule. D'après mes lectures, entre l'âge de 0 à 9 ans, d'après ce qu'on dit, on dit en général de 0 à 5 ans, mais actuellement c'est de 0 à 9 ans, parce que c'est là où un enfant absorbe et qui n'arrive pas à gérer ce qu'il absorbe, hein, il n'arrive pas encore à gérer ses émotions, de 0 à 9 ans.
Absolument. C'est pour ça que les adultes doivent faire attention à ce qu'ils disent, vraiment. Les adultes, les parents surtout, doivent faire attention à ce qu'ils disent à côté des enfants. Mais en même temps, je pense qu'en adulte aujourd'hui, aligné, en tout cas pour ma part, je n'en veux pas, je n'en veux plus à mes parents par rapport à ça.
Non, mais absolument pas. Ce qui est extraordinaire dans ce cheminement de connaissance de soi, c'est qu'au final, on finit par comprendre que je parle des schémas qui sont un peu classiques. Hein. Je ne parle pas des violences,
violences
parentales qui sont tout à fait... Donc, en fait, ces comportements sont tout à fait inconscients de la part des parents. Et en fait, c'est aussi le ressenti de cet enfant. C'est-à-dire, si on prend deux enfants qui sont éduqués par les mêmes parents. Alors, une remarque d'un parent pour un enfant pourrait avoir un ressenti très, 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 très négatif. Pourrait être ressenti, par exemple, comme si je suis rejetée, par exemple.
Absolument.
Pour un autre enfant, et c'est ça, et pour un autre enfant, ça pourrait passer crème. Donc, finalement, on finit par comprendre aussi que c'est le ressenti aussi de l'enfant, c'est sa façon, comment il va comprendre cette remarque. Donc finalement, on ne peut pas rejeter la faute complètement sur les parents. Il y a une part de responsabilité dans le choix du comportement, dans le choix des mots, dans la discussion, dans la communication. Mais en tant qu'adulte, on finit par comprendre que ce n'est pas entièrement la faute des parents, absolument pas.
En même temps, enfin, de ma position à moi, pour moi, les parents ne sont pas à 100% responsables, c'est parce qu'il n'y a pas de manuel de la parentalité et que les parents eux-mêmes découvrent la parentalité avec leurs enfants et que, voilà, ils n'ont fait que ce qu'ils savaient faire.
Tout à fait.
À un moment
tout
donné.
À fait. Et en fait, c'est extraordinaire, tout à fait, parce que finalement, c'est, on va dire, un héritage. Avant, je pense que c'est un petit pilotage automatique où on ne faisait pas très attention aux émotions. Je pense. Hein,
dans la majorité des cas, c'est ça, absolument. Absolument. Voilà. Absolument. À travers toutes les discussions, enfin la majorité des discussions que j'ai pu avoir avec les femmes d'aujourd'hui, et celles qui ont plutôt cette génération-là des fin des années 70, 80, voilà, c'est comme vous dites, pilotage automatique. De la part des parents, les émotions étaient reléguées. Voilà, c'était un être qui grandissait en attendant de devenir adulte. Voilà. L'enfance, Je pense qu'on est nombreux et nombreuses à avoir vécu ça quand même.
Exact. Et maintenant, c'est extraordinaire. De par ma profession au cabinet, je vois des parents, les parents en fait, hélas, quelle que soit les couches sociales et franchement, quel que soit l'intellect, mais vraiment, Yasmine, il faut voir, ils font de plus en plus attention aux émotions des enfants.
Est-ce que parfois ça déborde pas?
Alors, des fois, ça peut déborder, mais voilà. Moi, je dis qu'il faut toujours un équilibre. Mais c'est déjà très bien de faire attention aux émotions d'un enfant, de prendre le temps d'expliquer, d'être dans l'encouragement aussi, parce que voilà, on a tendance à ne pas énormément encourager un enfant quand il fait un effort qui pour lui est extraordinaire, parce qu'un effort est très relatif.
Bien sûr.
Un effort fourni par un enfant de 3 ans ne l'est pas pour un enfant de 10 ans, ne l'est pas pour un enfant de 7 ans, etc. Donc, des parents qui font attention à ce genre de petits détails, sans en faire trop, bien sûr, il faut toujours être dans l'équilibre, et bien ça pourrait aider à faire des adultes plus équilibrés.
On va voir ce que ça va donner, l'expérience. On va voir l'expérience collective, ce qu'elle va donner.
C'est une étude... une étude statistique.
Exactement.
Pour les enfants, je commencerai maintenant et je te dirai dans 10 ans.
Comparative avec l'ancienne génération, la génération des parents. Alors, en même temps, lorsqu'on change à l'intérieur, et surtout quand c'est vis-à-vis des autres, eh bien, on change aussi de l'extérieur. Est-ce que ça perturbe l'entourage? Houda.
Alors, ça perturbe, oui, ça pourrait perturber l'entourage dans la mesure où ça dépend de ce changement, je pense.
Dans votre cas, vous, on reste sur alors, vous êtes notre calitude du jour.
Alors, dans mon cas, ça a surpris, effectivement, oui, tout à fait. Le changement, ça a surpris certaines personnes de l'entourage. Certaines ont pris de la distance, ce que je pourrais très bien comprendre parce que je ne convenais plus à ce modèle qu'elles ont toujours connu. C'est ok pour moi maintenant, pour être sincère, la majorité des personnes de mon entourage ont accepté ce nouveau moi et ça va, ça passe très bien. Je pense que avec ma propre expérience, il faut arrêter d'avoir peur de ne pas plaire aux autres. Parce que finalement, quand on a cette peur de ne pas plaire aux autres, je pense, hein, c'est toujours par rapport à moi, quand on a peur d'arrêter de plaire aux autres, que ce soit la famille, les amis, bref, l'entourage, au boulot, etc., on n'est pas soi-même. On vit une autre vie finalement qui n'est pas la nôtre, qui est la vie des autres pour refléter ce miroir qu'ils ont envie de voir. Mais au final, quand on se retrouve nous-mêmes, quand on est nous-mêmes, finalement, on se rend compte que les autres, ils adorent cette version authentique de nous-mêmes pour la plupart. Hein. C'est sûr que certaines, ça va déranger certaines personnes, mais d'autres personnes vont être OK avec ça. Et peut-être que ça va finalement déteindre sur elles aussi. Elles vont vouloir s'améliorer sur certains points. Et voilà, c'est comme un effet boule de neige positif que j'ai l'habitude de dire. Moi, je dirais que ça a été plutôt un changement positif de ma part, pour ma part, pour mon entourage.
Alors, par rapport à justement le fait d'être constamment entourée d'enfants, parce que je pense qu'en tant que femme, vous êtes très empathique, vous avez cette sensibilité, parce que quand on a très longtemps fait attention au ressenti des autres, même quand On se soigne avec soi-même, mais on ne change pas complètement sa nature. Ça reste
non,
sa
bien
propre
sûr que
nature.
non.
Voilà, mais juste,
Oui, tout à
on
fait.
dose un peu plus cette empathie. On la
Tout à
laisse
fait.
plus
On
nous
l'équilibre.
envahir.
Exact, on fait un équilibrage.
Oui,
Tout
absolument.
à fait.
Alors, justement, ce cœur sensible qui travaille avec des enfants qui peuvent parfois être malades, vous gérez ça comment?
Déjà dans la bonne humeur, parce que si j'ai choisi ce métier, c'est vraiment par passion. Donc, c'est ce qui me fait que je me réveille tous les jours pour aller au travail. Et voilà. Dans aussi beaucoup de patience, c'est un métier qui requiert énormément de patience, qui requiert aussi énormément, oui, de l'empathie, c'est vrai, mais une très bonne oreille et de la compréhension. Il faut, à mon avis, si on a envie de faire ce métier, il faudra être très à l'écoute des parents et compréhensif parce que c'est des parents qui peuvent venir angoissés, apeurés, peut-être en colère pour une raison qu'on ne sait pas. Voilà, il y a plein d'émotions quand on a un enfant malade. Et en fait, il n'y a pas que cet enfant qu'il faudra soigner, c'est toute la famille au final qu'il faudrait prendre en considération dans cette prise en charge. C'est très important. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est d'être un petit peu dans du coaching positif des parents, surtout des nouveaux parents, pour les aider un petit peu à prendre confiance en eux et à dépasser leurs angoisses et leurs peurs, surtout vis-à-vis d'un nouveau-né, par exemple, ou d'un enfant très, très jeune, surtout pour une première expérience. Donc, c'est plutôt la bonne humeur et de l'encouragement, de coaching positif, on va dire. C'est ça.
On arrive, quand on travaille dans ça, est-ce qu'on arrive à faire la part des choses une fois qu'on rentre chez soi?
Pour ma part, oui. Sincèrement, ça a été toujours le cas. J'ai toujours laissé mon métier de côté une fois que je rentre à la maison. Bon, une fois que je rentre à la maison, des fois, j'ai des urgences que je dois gérer, mais je veux dire qu'émotionnellement parlant,
Absolument, je faisais référence à ça, tout
oui.
à fait.
Tout à fait. Alors, émotionnellement parlant, je ne me laisse pas envahir par ce qui s'est passé en journée, parce que j'ai des enfants, moi aussi. Et si j'ai été là pour ces enfants toute la journée au cabinet, les enfants malades, non malades aussi, parce qu'on fait des suivis, voilà. Mais je devrais être aussi pour mes enfants présentes, aussi dans la bonne humeur, dans l'empathie, dans la compréhension, voilà, donc pour les accompagner dans leur quotidien. Donc j'ai appris à me détacher, à moins qu'il se passe quelque chose de vraiment très 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 triste ou
Oui.
je ne sais pas, voilà, ça c'est humain je pense, mais c'est ponctuel. Je ne vais pas transporter les petits bobos de la journée au travail, à la maison. Non, ça j'arrive à faire la part des choses.
Alors, vous avez beaucoup dit j'ai appris, j'ai appris, j'ai appris. Tout au long de cet entretien, vous apprenez comment justement, Houda El-Rmari?
Ah, wow. Alors j'apprends. Alors au tout début, j'ai dû apprendre avec des coachs personnels qui, bien sûr, m'ont permis d'être sur la voie de ce cheminement finalement. Parce que je pense que c'est important de s'aider par des professionnels selon son choix, selon sa vision, selon ses convictions, peu importe quels sont ses professionnels. Mais c'est important de s'aider, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, ça m'a permis de comprendre ce qui n'allait pas dans certains points de mon être finalement. Et donc, une fois ces petits diagnostics, on va dire, établis par les coachs, grâce à leur soutien, j'ai commencé aussi à mieux me connaître, à écouter des podcasts de mentors dans le développement personnel, de mieux m'écouter pardon, je voulais dire selon mon métier. Mon métier exige que je sois toujours à l'écoute de l'autre, etc. Et des fois, je m'oubliais de m'écouter. Je m'oubliais de me poser la question, est-ce que toi, tu vas bien?
Absolument.
Et ça, c'est important. Et ouais, il faut, je prends un petit moment dans la journée pour me dire, déjà, la gratitude, elle est très importante pour se dire, alhamdoulilah, pour tout ce qu'on a de bien dans notre vie, même les toutes petites choses, ça m'a aidé énormément aussi à aller mieux. Et en même temps, en énumérant ces petites choses, on se rend compte que, alhamdoulilah, finalement... je me suis rendu compte que ma vie n'est pas aussi catastrophique que je pourrais me l'imaginer dans ma tête. Donc ça, c'est vrai. Hein, c'est...
Pourquoi parfois vous étiez envahie par ce ressenti que c'était pas stable?
Ben, des fois, oui. Je pense que tout le monde a ce petit ressenti entre le travail, le quotidien, la course au quotidien, gérer les émotions venant de l'extérieur, gérer la famille. Je pense que tout le monde a ce petit ressenti qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il y a peut-être des petits, on va dire, des sorties de route. Je pense que tout le monde passe par là. Et je suis passée par là. Et non, la gratitude est juste extraordinaire parce qu'elle permet de remercier Dieu pour, et d'être dans le hamd pour les moindres petits détails de la vie. Et finalement, ces moindres petits détails font que ça dessine de grands détails. Et c'est extraordinaire de se rendre compte que, alhamdoulilah, il y a des choses qui vont bien. Et donc, voilà, si ce n'est pas aussi négatif qu'on pourrait se l'imaginer ou penser. Et puis, les podcasts et tout ça. Et ensuite, en me connaissant de mieux en mieux, je suis plus à l'écoute de moi-même. Et donc, j'apprends maintenant à savoir ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Les situations qui pourraient être très négatives et toxiques pour moi. Et donc, comment je pourrais les éviter ou alors juste rester blasée sans être imprégnée. Voilà, c'est des choses qui permettent encore une fois de se rééquilibrer et de vivre mieux sa vie, je pense.
C'est incroyable parce que quand on va voir le pédiatre de ses enfants, en général, on voit le spécialiste, on voit le professionnel, on voit celui, celle qui a la réponse à notre mauvaise nuit, à ce qui ne va pas. Et avec vous, en fait, ben, on se rend compte, et ça, malheureusement, on a parfois tendance à l'oublier avec certains métiers, que c'est derrière la blouse blanche. Ben, il y a une femme d'aujourd'hui, il y a une femme qui se pose des questions, qui n'est pas là juste technicienne professionnelle, mais c'est vraiment un être humain en chair et en os. Ben, je sais que ça peut sembler un peu bizarre ce que je dis, mais je pense que quand on va voir son médecin, on voit le scientifique.
Mais si nous, en tant que médecin, et je parle pour pas mal de collègues, on s'oublie en tant que personne, et on a tellement cette casquette de médecin qu'on finit par s'oublier, forcément, le patient ne verra pas cette personne hors médecin. Donc, c'est une chose que je comprends parfaitement. Maintenant, je pense qu'il faut un petit peu humaniser cette profession dans le sens, dans le côté médecin. C'est-à-dire que si je suis vraiment fatiguée et que ça se voit sur ma tête, ben je peux partager ça avec mon patient et dire excusez-moi aujourd'hui ça va pas très fort. Et puis voilà, le patient, il est aussi, les parents, ils sont extraordinaires franchement parce qu'ils sont là avec un petit mot très gentil et puis basta, après ça passe très bien et tout se passe bien et voilà. Donc je me dis que cette relation patient-médecin, on pourrait un petit peu être plus gentil avec nous-mêmes et peut-être montrer notre vulnérabilité en tant qu'être humain finalement. C'est pas être dans le drame bien sûr, c'est juste se permettre d'être un tout petit peu vulnérable et ça touche le patient et ça lui fait comprendre que oui, derrière cette blouse blanche et ses connaissances, ben, il y a un être humain, c'est pas un robot au final.
Absolument. Alors, Houda El-Rmari, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à toi, c'était un plaisir.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.